Le journal d'Amélie Gerber.
Bonjour, le Jura y a échappé belle samedi soir avec la rave party sauvage de Malray. Les fêtards avaient prévu de s'installer à Souls avant d'être bloqués par des habitants. Ils se sont par conséquent déplacés à Malray où des violences ont éclaté. Un dossier à retrouver dans ce journal. La chasse aux sangliers a déjà débuté pour les chasseurs jurassiens. Les dégâts commis par les bêtes cette année ont doublé par rapport à 2024. Des mesures ont déjà été prises cet hiver par l'Office de l'Environnement, mais elles n'ont pas suffi à diminuer les dommages aux cultures. Gros coup sur le marché des transferts pour le HC Ajoie. Il a annoncé il y a quelques minutes le retour au club de Kylian Motet. L'attaquant est prêté pour un an par Fribourg-Gotteron. Aujourd'hui, le temps devrait s'améliorer au cours de l'après-midi. Après une fin de week-end pluvieuse, le soleil fera son retour en deuxième partie de journée. Au meilleur de la journée, le mercure atteindra les 23 degrés en pleine et les 18 degrés à 1000 mètres. Le Jura bernois sous le choc après la rave party sauvage de Malray ce week-end. Des violences ont éclaté entre fêtards et forces de l'ordre samedi soir, faisant notamment 2 blessés dans les rangs de la police qui n'est pas parvenue à stopper la fête illégale. Dans le Jura ce lundi matin, on se dit qu'on l'a échappé belle. La rave party a d'abord tenté de s'installer dans un champ à Souls vendredi soir, mais les fêtards ont été bloqués et refoulés. Tout s'est joué sur un concours de circonstances, Jérémy Pignard.
Oui, c'est l'histoire d'un triple coup de chance. D'abord, une quinzaine d'agriculteurs et villageois qui font des grillades à Souls près du terrain visé par les fêtards. En redescendant sur un dervelier, l'un des agriculteurs remarque une voiture immatriculée dans le canton de Vaud avec 4 jeunes à bord, puis une camionnette blanche et lance aussitôt l'alerte auprès de ses camarades. On est quelques-uns à avoir manifesté contre la géothermie. On sait qu'il faut agir vite, souffle l'un des agriculteurs. Avec l'aide de villageois, il bloque le chemin en 3 minutes avec des tracteurs. À l'arrivée des fêtards, le blocus est prêt. Les négociations sont parfois tendu, mais finissent bien. L'un des agriculteurs présents relève cependant que, contrairement à ce que les fêtards avancent, ils n'ont eu aucune discussion préalable avec les propriétaires, ni aucun respect pour l'état d'une pâture ou encore l'écologie. Le maire de Haute-Sorne, Éric Dobler, lui, salue l'initiative des villageois présents.
C'est un coup de chance, mais avec les événements qu'on a eus il y a quelques années, la chance, ça se provoque un petit peu. Les gens de Souls sont très très attentifs à ce qui se passe dans leur commune. On sait que Souls, il y a plusieurs fois eu des tentatives de rave party, mais qui ont avorté. On sait que c'est un spot, que c'est un endroit qui est relativement calme, isolé, et puis qui est très très favorable à ce genre de rencontre.
Miracle numéro 2. Dans le même temps, la police jurassienne réalise ce soir-là un contrôle routier aux Franches-Montagnes et voit un défilé de plaques d'immatriculation de tous horizons. Miracle numéro 3, des effectifs sont à proximité de Souls et peuvent se rendre sur place dans un délai raisonnable. Des voitures circulent toujours et les fêtards n'ont pas encore trouvé de lieu pour décharger leur matériel. La police interviendra et parviendra à leur faire quitter le canton sans altercation. En revanche, elle n'encourage pas les citoyens à des actions de blocage ni à s'interposer. Cela peut vite dégénérer, relève l'adjudant Frédéric Billeux, officier de service ce soir-là. Le maire de Haute-Sorne, Éric Dobler, reconnaît que la prévention reste l'un des meilleurs outils à disposition.
On n'a pas de police locale, donc nous, on travaille avec la police cantonale. Dans ce cadre-là, à notre niveau, ce qu'on fait, c'est entre guillemets de la prévention, c'est-à-dire l'information à la population en disant, si vous voyez des choses qui ne sont pas dans l'ordre des choses, n'hésitez pas, informez, gardez pas ça pour vous, parce qu'il faut intervenir très vite. On sait, dans ce genre de manifestation, dès l'instant où ils sont sur place, c'est impossible de faire machine arrière. On a eu, par exemple, il y a quelques semaines, une demande de location pour un anniversaire qui dure 3 jours à un endroit particulièrement isolé, donc ça allume quelques feux rouges chez nous, puis on investigue et puis on contrôle et éventuellement on loue pas.
Et le maire s'attend évidemment à des réactions ce soir lors du Conseil général de Haute-Sorne. La police jurassienne, qui dispose déjà d'un protocole face à ce type d'événement, confie qu'une réflexion sera engagée au vu des événements qui se sont déroulés dans le Jura bernois.
À Malray, la rave party s'est achevée ce lundi matin avec le départ des derniers festivaliers. Le président de la bourgeoisie locale à qui appartenait la pâture, Laurent Blanchard, a fait l'état des lieux.
Étonnamment, ce matin, quand j'ai fait le tour des lieux, j'ai constaté que c'était relativement propre. Il y a peu de déchets qui traînent. Donc, je suis venu hier soir à 8h, ils étaient en train de ramasser, une vingtaine de personnes ramassaient les déchets. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire, c'est relativement propre. Le problème, c'est plus les excréments des chiens, ils avaient beaucoup de chiens. Les excréments humains, c'est ça qui cause un peu problème. Ils disent qu'ils ont des toilettes sèches, mais on a quand même vu beaucoup d'excréments sous les sapins ou le bétail pâture. Donc c'est ça qui cause problème. C'est des gens très corrects. Ils nous invitent à venir boire quelque chose. C'est pas des méchants, ça c'est vrai. Mais le problème, c'est la musique aussi. Il y a toute la vallée qui se plaît du bruit. On entend des basses jusqu'à la montagne de Moutier, jusqu'à Rémeu, jusqu'à Monible. Je veux dire, à un moment donné, c'est plus possible. C'est ça, ils ont mis la musique samedi matin à 8h. Ils ont coupé dimanche soir à 22h. Il y a plein de monde de la vallée de Tavannes qui est très, très mécontent à cause de ça.
Dossier réalisé par Jérémy Pignard et Olivier Zano. La chasse aux sangliers a déjà repris pour les chasseurs jurassiens. Depuis début juin, ils peuvent tirer les bêtes de moins de 2 ans 3 fois par semaine à l'aube et au crépuscule. Ces tirs à l'affût, comme ils sont appelés, sont autorisés à cette période depuis que les sangliers prolifèrent dans le Jura et causent d'importants dégâts dans les champs des agriculteurs. Entre décembre et mai, 296 000 francs de dommages aux cultures ont déjà été enregistrés, soit le double de l'année dernière. L'effort des chasseurs de la FSJC, la fédération cantonale, qui ont tiré 550 sangliers l'hiver dernier, n'a pas suffi. Amaury Boya, inspecteur de la faune à l'Office de l'environnement du canton du Jura.
Un mot d'ordre relativement clair avait été donné durant le mois de décembre pour la période de battue, pour qu'un effort marqué soit mis en place par la FCJC, à qui le département de l'environnement confie l'organisation des battues. Le prélèvement est à la hauteur des attentes. Malgré tout, ben voilà, il faut aussi se rendre compte que chasser le sanglier n'est pas prélever un cheptel d'animaux de rang dans un enclos. Ça reste un animal méfiant, malin. On a un certain nombre de sangliers qui sont restés sur pied, associés à cette absence de fruits forestiers. On a les dégâts qui ont très vite pris l'ascenseur. Et par rapport à l'année dernière, pour pareille époque, on est au double de dommages enregistrés en 2024. Donc on va vers une année compliquée. Et c'est la raison principale pour laquelle les gardes professionnels, cette fois-ci, ont très vite été mobilisés avec leurs auxiliaires pour tirer des sangliers de nuit, donc des opérations de gestion menées par l'Office de l'environnement, on ne parle pas de chasse ici, qui a permis le prélèvement d'une douzaine d'individus, qui a permis d'un peu soulager des zones fortement impactées par les dommages.
L'éclairage nocturne sera au cœur des débats ce soir à Indervilliers. Le Conseil général de Haute-Saône se prononcera sur 2 motions à ce sujet à 18h30 à la halle des fêtes du village. L'extinction de l'éclairage public fait débat depuis son introduction en 2023. Pour rappel, les luminaires sont éteints dès 23h la semaine et dès 1h du matin le week-end et la veille des jours fériés. Plusieurs partis veulent changer les choses pour des questions de sécurité. Loïc Jourgi.
Il faut surtout adapter les horaires, c'est ce qui ressort d'une motion interpartie signée principalement par des élus d'Haute-Saône Avenir et d'un élu du centre. Si un sondage lancé par la commune montre que la majorité de la population a adopté ce changement d'éclairage, il y a tout de même des remarques qui ont été faites pour améliorer sa mise en œuvre, selon la motionnaire Sylvain Eschmann. Elle relève dans son texte quelques exemples, comme la coordination des horaires en fonction des derniers trains, pour permettre aux piétons de rentrer dans des rues éclairées, ou encore le maintien de l'éclairage public les nuits de Noël ou lors de fériés officiels. De son côté, l'UDC va même plus loin dans une autre motion. Le parti agrarien demande l'organisation d'une votation populaire pour le retour de l'éclairage public nocturne sans exception.
Le Conseil général se prononcera donc sur ces 2 motions. Il devra également valider les comptes communaux qui présentent un bénéfice de 976 000 francs au compte général. Un feu de paille, les bons résultats économiques du début d'année seront contrebalancés par un second semestre 2025 morose et une année 2026 incertaine. Ce matin, les experts économiques du SECO abaissent leurs prévisions de croissance à 1,3% pour 2025 et seulement 1,2% pour 2026. L'incertitude commerciale mondiale et géopolitique amène les experts à tergiverser. Ça pourrait être mieux, mais pire aussi, le pessimisme est le plus probable. À Berne, les explications de notre correspondant Serge Hubin.
L'anticipation de la hausse des droits de douane aux États-Unis a boosté la première partie de l'année dans le domaine tertiaire ou de l'industrie chimique et pharmaceutique. Mais l'incertitude actuelle pèse lourd, même si les experts tablent sur des droits de douane de 10% avec les États-Unis comme actuellement. La croissance du PIB en Suisse ne devrait ainsi être que de 1,3% en 2025. Heureusement que l'activité intérieure du pays se porte bien grâce au taux d'intérêt bas et à une inflation nulle ou à peine positive à 0,1%. Les affaires ne devraient pas pas s'améliorer. L'année prochaine, au contraire, le SECO prévoit même une hausse modérée du chômage de 2,9 à 3,2%. L'incertitude conduit les experts à produire deux autres scénarios opposés. L'un s'appuie sur l'hypothèse d'une détente des relations internationales doublée de plans de relance massifs comme en Allemagne, avec un effet positif sur la croissance en Suisse aussi. À l'inverse, il faut prendre en compte le risque de voir les États-Unis imposer des droits de douane supérieurs à 10% avec un plongeon des marchés boursiers et un renforcement encore du franc suisse. C'est le scénario du pire qui péjorerait aussi la situation économique suisse. Les experts universitaires du COF zurichois partagent l'analyse des experts institutionnels du SECO. Jeudi qui vient, la Banque nationale donnera sa lecture de la situation.
RFJ, les 12h25.
RFJ, sport.
Le HC Ajoie signe un très joli coup sur le marché des transferts. Il a annoncé il y a quelques minutes le retour au club de Kylian Motet. L'attaquant est prêté pour la saison prochaine par Fribourg-Gotteron où il était sur une voie de garage, Cyprien Lovi.
Oui Amélie, c'est un fidèle fribourgeois qui revient dans le Jura. Kylian Motet, attaquant, 34 ans, 684 matchs de National League avec Fribourg, est prêté au HC Ajoie alors qu'il possède encore un contrat valable avec le Dragon. Mais l'organisation fribourgeoise ne voulait plus de lui. Comme l'indiquait le directeur sportif à Joulot, Julien Vauclair, jeudi passé sur RFJ, Ajoie a tout entrepris pour que Kylian Motet soit prêté dans le Jura. Et cela a donc fonctionné. Buteur né, international à 43 reprises, le fidèle numéro 71 est attendu à Porrentruy pour être un leader offensif, un buteur. Kylian Motet a connu plusieurs saisons fastes en National League avant de faire face à une baisse de régime, notamment l'an passé. Mais surtout, il a laissé d'excellents souvenirs aux supporters jurassiens qui l'ont même rappelé à la fin des matchs alors qu'il portait le maillot de Fribourg. Lors de la saison 2012-2013, Motet avait inscrit 67 points en 62 matchs, aligné aux côtés de James Desmarais et Stéphane Roy.
La saison de football s'est terminée sur de nombreux terrains de la région ce week-end et c'est la fête qui a marqué le dernier match du FC Valterbi. Les footballeurs de Mervelier ont battu Glovelier 3-0 samedi à domicile et sont donc champions de leur groupe de 3e ligue et promus en 2e ligue. Le FC Valterbi a terminé la saison par une série de 16 matchs sans défaite. L'entraîneur Thierry Buller n'a pas souhaité poursuivre l'aventure. Le président du club, Georges Marquis, dévoile son remplaçant.
Alors cette saison, ça sera Mike Hirschi qui fera une année chez nous. On a réussi à le ramener au bercail un peu. Il avait besoin de faire une année dans un club de deuxième ligue inter ou des M15. Et puis ça ne s'est pas donné, donc on a eu la chance de pouvoir compter sur ses services.
Et concernant le contingent, Georges Marquis, est-ce que vous avez déjà quelques certitudes? Ce sera quoi vos axes de renforcement principaux?
Alors les certitudes, c'est qu'on n'aura pratiquement pas de départ, et ça c'est déjà important. Et puis bon, on va continuer avec notre politique. Notre politique est toujours la même. Ça fait plusieurs années qu'on mise sur la jeunesse, sur les gens régionaux. Et puis bien sûr, il nous faudra quelques renforts quand même de joueurs chevronnés, parce que c'est bien beau de mettre des jeunes, mais il faut qu'ils soient bien entourés. Et on l'a vu cette année avec les deux renforts de première ligue, d'ex-première ligue qu'on avait avec Thomas Lovi et Gary German. Ça fait quand même beaucoup pour les jeunes qui sont à côté.
Georges Marquis était l'invité de Marceline Michon dans la matinale. Retrouvez l'entretien complet sur rfj.ch. Ludovic Magnin sur le banc du FC Bâle. L'entraîneur vaudois quitte le Lausanne Sport et succède à Fabio Celestini, selon une annonce publiée dans le club rhénan ce matin. L'ancien international a signé une entente de 2 ans avec le champion de Suisse en titre. Il avait décroché la 5e place de Super League avec Lausanne la saison dernière. C'est la fin de ce journal. Très belle journée.